un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 21 mai 2024 et cette chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée sur Radio Libre en Périgord est proposée par Jean-Louis. C'est une émission qui est enregistrée en raison donc du férié, ce lundi 21 mai. Je vous propose aujourd'hui une présentation d'une brochure éditée par la Libre Pensée sous le titre « Vade Bécum laïcité ». Une intrusion dans l'école au nom des obscures valeurs de la Macronie. Alors avant d'entrer directement dans la présentation de cette brochure, un petit mot sur cette série de brochures que propose la Libre Pensée. C'est une brochure dont la collection qui les regroupe s'appelle la collection Arguments, et déjà près d'une trentaine de brochures ont été éditées et proposées, la plupart sous forme écrites sous forme imprimée à travers des brochures qui sont mises en vente à des prix extrêmement bas, de l'ordre de 3, 4, 5 euros selon les numéros. Et puis là, il y a quelques numéros qui sont mis à disposition gratuitement en téléchargement en version PDF. Et c'est le cas de cette brochure que vous pourrez donc retrouver dans son intégralité sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée FNLP. Ou bien en passant par le site du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée d'Ordogne, lpdordogne.fr. Donc n'hésitez pas à télécharger cette brochure et en fin d'émission, je vous indiquerai que d'autres brochures sont en préparation sur le même modèle. Alors revenons donc sur cette brochure qui vient d'être publiée. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je vais simplement laisser la parole à Valentine Zuber qui a rédigé la préface de cette brochure. Voilà ce que dit Valentine Zuber. La loi du 15 mars 2004, encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, fête cette année ses 20 ans. C'est un bel âge pour revenir sur les changements qu'elle a apportés à la laïcité scolaire, mais aussi à la laïcité tout court. Rappelons qu'avant cette date, la neutralité et le devoir de réserve en matière d'affichage des convictions religieuses, idéologiques ou politiques n'étaient exigibles que des seuls fonctionnaires représentant l'État laïque qui seuls se devaient de rester neutres et impartials. La loi a donc étendu, de manière inédite, l'obligation de neutralité aux usagers de l'un des principaux services publics, l'école de la République, à l'exclusion toutefois des écoles privées sous contrat d'association avec l'État, qui depuis la loi Debré de 1959 participent pourtant du service public de l'enseignement. En dépit de cette inflexion majeure dans la doctrine laïque française depuis la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, qui, dans son premier article, définissait d'abord et de manière très ferme la mission impérative de l'État dans la défense de la liberté de conscience de tous ses citoyens, la loi a été accueillie très positivement par tous les secteurs qui l'ont portée. Axée sur l'interdiction des signes religieux ostensibles, assimilés à des actes de prosélytisme en eux-mêmes, elle a inauguré et justifié une police du vêtement, pourtant rejetée jusque-là par les pères fondateurs de la laïcité française. 20 ans après, a-t-elle réellement contribué à pacifier les choses ? Rien n'est moins sûr. Lorsque l'on voit la récurrence des affaires politico-médiatiques à propos des vêtements religieux, essentiellement musulmans et féminins d'ailleurs, qui se sont succédés depuis, tant à l'école qu'à ses marges. L'apparition successive des hijabs, des burkas, des burkinis et tout récemment des abayas dans l'espace public et au sein même de l'école a mis à mal une lecture enchantée de l'effectivité réelle de cette loi. Et pourtant, les acteurs de l'école, en particulier ceux qui se succèdent à la tête du ministère de l'Éducation nationale, s'acharnent à en promouvoir son urgente nécessité en développant toutes sortes d'outils a posteriori chargés de préciser et de durcir les modalités de son application, trop souvent contestées selon eux, au sein même des établissements scolaires. Il en est ainsi du vade-mecum de la laïcité. Constamment enrichi par les différents ministères sous l'autorité d'un conseil des sages de la laïcité discrétionnaire et composé à la mesure de la volonté politique de ces derniers. La création des délits d'atteinte à la laïcité, aussi vague que fourre-tout, la transformation de la mission de l'école, du développement de l'esprit critique de jeunes cerveaux en construction à la recherche d'une uniformisation culturelle et patriotique, l'exaltation de valeurs de la République, jamais précisément définies, mais devant s'imposer aux élèves, y compris sous la contrainte, ont accompagné l'application de la loi, tout en contribuant à l'infléchir dans un sens toujours plus directif. Alors que cette dernière précisait bien les deux volets successifs à respecter dans sa mise en œuvre. Un dialogue ouvert avec les élèves et leurs familles avant toute mesure pénalisante. L'aspect uniquement répressif s'est bien souvent substitué à toute mise en œuvre de nature plus pédagogique. Et c'est bien là ce que reflète le vade-mecum et ses variations successives, qui prend de plus en plus l'allure d'un véritable règlement intérieur avec ses incohérences conceptuelles jamais relevées. Le plus grave est surtout qu'il fait de la laïcité un véritable instrument de coercition sociale alors qu'elle avait été originellement pensée comme un instrument de préservation de la liberté individuelle. Il faut donc saluer ici l'initiative de la libre pensée consistant à dénoncer inlassablement les incohérences et les dérives manifestes de la politique de laïcité scolaire menée depuis une trentaine d'années maintenant. Discriminatoire, elle somnubile sur les usages culturels ou religieux d'une minorité en laissant sous silence de nombreuses dérives pourtant relevées dans l'enseignement confessionnel majoritaire, de plus en plus autoritaire et dogmatique. Elle s'apparente à une sorte de religion civile républicaine imposable à tous, mais surtout à certains, les musulmans de notre pays. Cette politique continue beaucoup plus idéologique que ce que ses penseurs veulent nous faire croire. Ce fait de plus, au mépris du respect du pluralisme et des débats contradictoires, pourtant nécessaires à la construction d'une vraie citoyenneté, et de ce fait inhérent au projet démocratique. Enfin, dans sa tournure de plus en plus réglementaire, elle contribue à dénaturer gravement le principe libéral et intégratif de la laïcité, qui devait rester ce beau principe de liberté, celle-ci devant être également et réellement partagée par toutes et tous dans une société devenue irrémédiablement plurielle. Donc c'est l'éditorial, l'introduction, la préface précisément, qu'a proposé Valentine Zuber, la préface à cette brochure publiée par la Libre Pensée, dont je rappelle le titre « Vade-mecum laïcité, une intrusion dans l'école au nom des obscures valeurs de la Macronie ». Alors, avant de revenir sur la présentation de l'ensemble de cette brochure, je reviens sur un point qu'a soulevé Valentine Zuber dans sa préface. Elle évoque le rôle du Conseil des sages de la laïcité discrétionnaire, donc qui a intervenu pour corriger, pour apporter des modifications successives donc, au vade-mecum de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale. Je parlais la semaine dernière du Conseil des sages en ce sens que l'un de ses membres, Alain Policard, en a été exclu pour avoir émis des positions personnelles qui ont été jugées contraire au principe de ce Conseil des sages et que donc Alain Policard n'avait plus à y prendre place. Ce qui montre bien évidemment l'aspect démocratique donc de tout ce qui est mis en œuvre actuellement, c'est-à-dire que la démocratie, c'est que dès que quelqu'un n'est plus d'accord, il est écarté. Voilà. Alors, on lui avait apporté, à travers une déclaration, tout le soutien de la libre pensée à Alain Policard. Alors, je vous propose maintenant de revenir un petit peu sur la présentation de cette brochure, au-delà donc de la préface de Valentine Zuber, et je pense que je peux citer quelques pages de l'un des chapitres importants donc de cet ouvrage. Alors voilà. Après la préface donc de Valentine Zuber, un article de Christian Eichen et de Benoît Steckenberger, Errare humanum est sed vademecum diabolicum. Voilà, tout le titre en dit suffisamment à lui seul sur ce qui est dit dans cet article. Deuxième chapitre, le vade-mecum de la laïcité ou les dessous pas nets d'une abaya ministérielle. Et je vous en lirai quelques pages. C'est un chapitre qui a été écrit par Michel Sidorov, Pierre-Yves Molicom, Benoît Steckenberger et Christian Echel. Et donc le troisième chapitre, laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve. Et c'est une note de lecture par Christian Echel. Alors je vous propose donc, comme je disais, de vous lire quelques pages du chapitre numéro 2, intitulé « Le vade-mecum de la laïcité » ou « Les dessous pas très nets d'une abaya ministérielle ». Enflé de mandature en mandature depuis que les gouvernements de la Ve République, le pays de la loi Debré, se préoccupent étrangement de la laïcité, ce vade-mecum destiné aux enseignants, du public, à leurs élèves, au personnel des établissements, atteint avec Gabriel Attal, son plus récent rédacteur ou coordinateur de rédacteurs, un degré de rhétorique trompeuse encore jamais vu parmi les documents officiels envahissant à présent les casiers des professeurs de lycées et collèges. Trompeur, ce discours mis au point, avec le concours de cadres de l'inspection académique et d'experts, des comités créés précédemment par Jean-Michel Blanquer, ce grand ami de la laïcité et d'école publique et gratuite, on s'en souvient, se signale pour un œil critique par des allusions répétées à des situations mises en exergue, placées sous la loupe utilisée généralement par les pourfendeurs macronistes de l'islamo-gauchisme et leurs amis du printemps républicain. Il y a dans ce vade-mecum qui ne manque pas de ruse, ce qui est grossi à la manière des choix éditoriaux de la presse aux ordres et ce sur quoi l'on fait silence, ce qu'on omet, qu'on oublie, intentionnellement, et les implications qui en découlent. Et pourtant, l'éducation nationale aurait tant à gagner à développer une information claire concernant le principe de laïcité à destination de ses personnels, tant la confusion règne. La laïcité, en effet, n'est ni l'œcuménisme qui fait fi de la liberté de conscience pour y substituer le choix des croyances. Elle n'est pas la simple tolérance qui confine à la condescendance. Elle n'est pas non plus une forme d'athéisme d'État. Liberté de conscience, liberté de culte et neutralité de l'État en sont les éléments les plus fondamentaux. Ce vade-mecum à destination des personnels de l'éducation nationale omet de surcroît de traiter de l'atteinte quotidienne à la laïcité que constitue un enseignement privé, le plus souvent confessionnel catholique, subventionné par l'État pour mener une mission pastorale à coût de milliards d'euros. Il fallait s'attacher à défaire ce jeu d'apparence, à désigner dans ce concert de déclarations vertueuses les leitmotifs servant à masquer les silences inquiétants. Donc on arrive à un sous-chapitre, intitulé « Une définition très particulière de la laïcité ». La préface, signée par Gabriel Attal, provoque d'entrée de jeu la méfiance. On peut dire que sans cette introduction, le lecteur pourrait se laisser endormir par le discours et ses différents chapitres s'étalant sur 108 pages. La première phrase ne peut que rencontrer l'hostilité d'un militant laïque. Citation. Principe cardinal de notre République française, la laïcité a pour vocation historique de fonder l'unité de notre pays dans une loi commune et de garantir l'accès à une culture partagée. Même si elle a pour conséquence de favoriser l'unité du pays, la laïcité, telle qu'elle est définie par la loi de 1905, est d'abord la garantie de la liberté de conscience des citoyens et l'entrave majeure à une direction des affaires publiques par les Églises. Dans le domaine scolaire, elle favorise l'enseignement des faits positifs et la relégation des croyances et des préjugés dans le strict domaine privé ou familial. Monsieur Attal nous parle en réalité d'unité nationale, ce qui, sous la plume d'un serviteur des intérêts patronaux et militaires, prend un relief particulier, celui de l'Union nationale. La référence à une culture partagée renforce encore ce dévoiement de la notion de laïcité. La culture ne se confond pas avec les connaissances, pas plus qu'avec l'expression artistique. Elle n'en est pas non plus la négation. Les pratiques culturelles, comme le port de l'abaya ou celui d'autres accoutrements, relevant du cadre familial, de l'origine géographique ou de mode par définition passagère, Sans se confondre, le cultuel et le culturel appartiennent à la sphère privée. En ce qui concerne le cultuel, le texte ministériel est par ailleurs bien obligé de le circonscrire dans ce domaine, la loi de 1905 n'ayant pas été abrogée. Jamais les élèves ayant fréquenté le lycée avant les années 2000 n'ont été mis en demeure de partager la même culture. Que ce fût dans le domaine artistique, celui des goûts culinaires ou celui de l'habillement, aucune injonction ne leur était faite, la seule exigence des professeurs étant alors l'apprentissage des règles grammaticales, l'étude de la littérature, des langues anciennes et vivantes, des théorèmes mathématiques, des lois de la physique, de l'histoire et de la géographie. Le simple fait d'invoquer l'unité nationale et la culture à propos de la laïcité doit alerter les enseignants et les personnels. La laïcité, en ce qu'elle garantit aux citoyens la liberté de conscience et, plus implicitement, la liberté d'expression, est la principale garantie démocratique depuis 1905. Jaurès l'affirme, démocratie et laïcité sont identiques. Prenez la laïcité comme ciment national et garantie d'une culture commune relève du totalitarisme. C'est la mise en œuvre d'une idéologie d'État, qui n'ose pas dire son nom, toute idéologie d'État étant totalitaire par essence. Cela suppose une acceptation de l'effacement des oppositions de classe, de la variété des sensibilités culturelles et des opinions politiques. La République n'est pas censée dispenser une culture commune aux citoyens, mais offrir et garantir un cadre démocratique. Or, à aucun endroit de ce vade-mécum ne se trouve le mot « démocratie ». En revanche, l'expression « valeur de la République » y est cuisinée à toutes les sauces jusqu'à l'écœurement du lecteur. Alors, la partie suivante est intitulée « Des valeurs » entre guillemets dont on ne trouve pas la trace en 108 pages. L'expression « valeur de la République » est devenue le mantra des gouvernants depuis une vingtaine d'années. Ce qui éclaire par exemple toute la fanfare qui est faite en France sur les valeurs républicaines. Et l'on cite « justice, responsabilité, liberté, égalité, fraternité, solidarité, tolérance, non-discrimination, laïcité, respect, dignité ». Toutes choses qui ne sont pas sur le même plan. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas des valeurs, mais des principes qui sont traduits en droit. La tolérance est une valeur. Il vaut mieux être tolérant qu'intolérant, et non un principe. Rappelons ce que disait Mirabeau à la tribune de l'Assemblée nationale en 1789, quand elle discutait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mirabeau dit « La tolérance est le fait du prince, car il peut ou pas tolérer ». Alors que l'égalité en droit est un principe. Comment voulez-vous traduire en droit juridique la tolérance ? Être intolérant n'est pas un délit pénal. Par contre, remettre en cause la liberté de quelqu'un, l'égalité des droits d'une personne, la fraternité par le racisme sont des délits punis par la loi. La laïcité est un principe politique et juridique d'organisation des institutions publiques par la mise en œuvre de la neutralité métaphysique qui garantit le respect de la liberté de conscience par le principe de séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas une valeur. La violer est punissable de la loi. Ne pas avoir les mêmes valeurs, non, car cela procède de la libre opinion de chacun. Mélanger valeurs et principes donne un salmigondi où personne ne peut comprendre, faire la part des choses et agir en conséquence. C'est ce qui est voulu par le verbiage des valeurs républicaines, plus personne n'y comprend rien, et c'est le pouvoir qui décide et qui tranche. Le libre entendement des citoyens n'a plus cours, alors. Ce n'est plus la conviction individuelle, c'est la contrainte étatique. En politique, c'est bien connu, plus on répète un concept, plus il y a de chances qu'il reste creux pour ceux qui l'invoquent ou qu'il serve à désigner autre chose que son contenu initial. C'est à ce double usage que nous assistons. Qu'il s'agisse de signes d'appartenance religieuse, objet premier de ce vade-mécum, de propagande interne aux établissements, de contestation du contenu de l'enseignement, d'organisation de sorties scolaires ou d'interdits alimentaires, à aucun moment n'est offerte au lecteur la liste, la définition de ces valeurs. Il est implicitement renvoyé au slogan initial d'unité nationale. Certes, dans les fiches constituant une partie de ce vade-mécum, le lecteur est dirigé vers une documentation pédagogique où il trouvera ce que ce gouvernement considère comme les valeurs de la République. Notons que, dans certains documents, le mot « valeur » est remplacé par celui de « principe », ce qui se rapproche plus des conceptions des révolutionnaires de 1789-1793, un principe étant issu par définition d'une discussion, d'une élaboration, tandis qu'une valeur appartient plutôt à un domaine moral, dangereusement éloigné des conditions réelles d'existence et du questionnement qu'on peut y appliquer. Et parmi ces ressources du Centre national de pédagogie et d'autres organismes officiels, on trouve une présentation des valeurs de la République sous la forme d'un discours de morale signé de Monique Canto Sperber. Certes, traductrice des dialogues de Platon, mais bien connue pour son soutien idéologique féroce aux guerres de l'OTAN, à Israël et pour sa haine du mouvement ouvrier. Dans son texte, pas un mot sur la laïcité. Il faut savoir que ce personnage a laissé à Normal Sup le souvenir d'une directrice autoritaire, obsédée par le discours néolibéral, connue pour ses incitations auprès des étudiants à embrasser la carrière des affaires plutôt que celle de la connaissance et de sa transmission. Dès lors qu'elle accéda à la retraite, Monique Canto Sperber mit en application de manière rémunératrice son idéologie capitaliste en créant sa propre université, établissement privé fondé sur le principe d'une récupération des étudiants fortunés, déçus par Parcoursup. Peu de temps auparavant, l'ex-ministre Blanquer, dont les méfaits contre l'école et l'université sont bien connus, créait, dès son débarquement du gouvernement, son propre réseau d'établissements privés. Voilà les personnages qui font référence dans le travail de détournement et de falsification du gouvernement sur la question de la laïcité. Liberté, égalité, fraternité sont les principes de base de la République que les républicains démocrates ont défendus au cours d'une histoire mouvementée jusqu'à nos jours. Ils sont en phase parfaite avec le principe de laïcité de l'État. En les plaçant dans le registre des valeurs, les rédacteurs des documents de propagande officiels peuvent leur adjoindre des choses comme la Marseillaise, élément qui a toujours été du domaine du contrôle plus ou moins efficace de l'exécutif sur l'institution scolaire. Il eût été difficile d'en faire un principe. L'invocation répétée des valeurs permet d'entretenir un flou dans lequel bien des choses peuvent venir se glisser. En particulier, la propagande patriotique chère à cette bourgeoisie et ses investissements dans l'industrie d'armement. Au cours d'un vade-mecum principalement axé sur la coercition, le ministre Attal n'aura pas manqué de songer à son SNU, moyen que sa classe et son personnel politique ont mis au point afin d'abrutir et de militariser la jeunesse scolarisée, y compris dès l'enfance. Ce vade-mecum prépare ainsi le terrain en dessinant l'objectif réactionnaire et totalitaire d'union nationale et de culture commune. Alors ensuite, un article titré « La réalité de la jeunesse scolarisée sous la loupe du sergent recruteur ». Il est hautement significatif que la première partie du vade-mecum soit consacrée aux signes dits ostensibles d'appartenance religieuse et aux actes de prosélytisme. C'en est aussi la principale. Comme le rappelle Attal dans son introduction, le point de départ de ce vade-mecum, revu et corrigé par un ancien élève de l'école alsacienne, chouchouté et enrichi par le PS sans fournir le moins de travail, c'est l'abaya, associé à la liste habituelle des signes religieux, ostensibles ou non. Tout se passe comme si, dans le monde de Gabriel Attal, les lycées et collèges étaient l'objet d'offensives religieuses. Mais comme le ministre est bien en peine de définir et de préciser la nature de ces offensives de par le monde, le lecteur retiendra ce dont il est question dans la presse et l'audiovisuel complaisant, le danger musulman. Le monde de M. Attal se confond avec celui des éditorialistes réactionnaires, avec celui du printemps républicain de Caroline Fourest et d'Alain Finkielkraut. Dans un monde où les banlieues sont antisémites et où les prédicateurs islamistes sont embusqués aux sorties d'école comme jadis les exhibitionnistes, un monde où les enseignants risquent de se faire égorger en rentrant chez eux. Or, ces derniers n'ont jusqu'à présent été exposés qu'à de rarissimes actes de déséquilibré notoire. Les jeunes des banlieues n'ont pas suivi les provocations des étranges agents roumains, bien vite expulsés par Darmanin et mis à l'abri de toute investigation, qui avaient apposé des pochoirs d'étoiles de David bleues, signe de ralliement des groupes sionistes, sur des murs d'immeubles. Enfin, les sorties de lycée sont depuis longtemps le lieu des défilés de mode innocents et passagers, dont l'abaya, signe culturel et non pas religieux, est un avatar. Nous renvoyons à la recension qui a été faite dans La Raison sur l'ouvrage « Laïcité, discrimination, racisme » et qui constitue la troisième partie du présent argument. Ce travail, réalisé avec les outils qui se veulent objectifs dans la mesure du possible, fait tomber quelques idées reçues, en particulier celles qui voudraient que l'expression de la religion musulmane perturbe de manière primordiale le fonctionnement des établissements scolaires. À bien lire cet ouvrage, on est bien obligé de se rendre à l'évidence. L'échec scolaire, les difficultés des élèves, le manque de moyens et les programmes vidés de leur contenu émancipateur sont majoritairement dénoncés dans les discours recueillis et définis comme la gangrène du système. Les questions liées à la religion, au racisme, à l'antisémitisme n'ont rien à voir avec ce qu'en disent les médias et le discours officiel, citation donc de Noël Monin. Pourtant, arborer cette robe n'en constitue pas moins une sorte de revendication, l'appartenance à une culture musulmane étant stigmatisée par le pouvoir et les médias. Il y a dans ce dernier symbole, et non pas signe, une menace pour le pouvoir. Dans ces projets d'embrigadement et de militarisation, ces jeunes filles signifiant plus ou moins consciemment qu'elles ne se rangent pas dans les futures cohortes qu'Emmanuel Macron et ses associés voudraient voir sacrifiées sur l'autel de leur économie de guerre. Voilà, donc je vous propose d'en rester là pour ces extraits de la brochure donc, qui vient d'être publiée par la Libre Pensée, Vadmecum Laïcité, une intrusion dans l'école au nom des obscures valeurs de la Macronie, que je vous invite bien évidemment à lire, d'autant que cela est facilité par la mise à disposition de cette brochure en format PDF sur le site de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, fnlp.fr, ou par le site des libres penseurs de Dordogne, du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, où vous retrouverez dans les articles les plus récents l'article présentant donc cette brochure avec les liens permettant son téléchargement. Donc n'hésitez pas à la télécharger, à lire cette brochure et surtout à nous faire part de vos commentaires, de ce qu'elle amène comme réflexion de votre part. C'est l'objet de notre émission de favoriser la réflexion sur ces sujets qui sont extrêmement importants. Voilà, eh bien écoutez, nous en avons terminé pour cette chronique du groupe Fred Zeller de ce lundi 21 mai et je vous propose bien évidemment de nous retrouver pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller dès lundi 28 mai. Bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient.